Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Affût. Ravi encore de vous retrouver pour l'épisode 13 de la saison 6, toujours avec à mes côtés Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Affût, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby au menu aujourd'hui. D'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir la troisième ligne du 15 de France féminin, Marjorie Mayence, récemment médaille de bronze lors de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Je vous rappelle évidemment que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Donc surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Est-ce que vous êtes prêts? Poulain Raffut, saison 6, épisode 13, c'est parti. Allez, première partie, Raph, aujourd'hui, on va évidemment revenir sur cette tournée triomphale du 15 de France. 3 matchs, 3 victoires et une série en cours de 13 succès consécutifs du jamais vu dans le rugby français. Pourtant, il y a encore des grincheux qui se plaignent, Raph, et ça, ça t'énerve.
Oui, oui. Est-ce que les Bleus n'ont pas atteint les sommets trop vite? Est-ce que trop gagner n'est pas un risque avant la Coupe du Monde? Et si trop gagner ne fait pas peser une pression trop importante sur les épaules des joueurs avant la Coupe du Monde? Est-ce qu'on n'a pas été prêt trop tôt? Moi, je ne comprends pas. Désolé, mais je ne comprends pas pourquoi on écrit et on dit des choses pareilles. Alors, tentons une petite analyse simple et basique, comme dirait l'autre. On s'est plaint pendant 10 ans de ne pas assez gagner, voire pas gagner du tout. On en est même arrivé à virer le meilleur entraîneur-manager d'Europe, en la personne de Guy Noves, sous couvert d'incompétence, alors qu'on ne lui a pas filé les clés du camtar, en lui foutant des gardes-chiumes comme un ado sous surveillance. Aujourd'hui, nous, les supporters, nous avons un staff qui pue l'humain. Je cite Karim Ghezal, William Servat, Laurent Labitte, un manager emblématique, Raphaël Ibanez, et même Fabien Galthié, qui a su se remettre en question après ces 15 années que l'on qualifiera de « complexe » en club. Il y a un staff de 20 personnes, dont un coach mental, alléluia, et on a un public acquis à la cause de l'équipe de France, et surtout aujourd'hui une putain de génération de mecs hyper professionnels. Des mecs jeunes, certes, mais responsables sur le terrain, des types qui sont fixés des objectifs à court, moyen et long terme, et qui ont leur destin entre leurs mains. Personnellement, je comprends qu'ils n'aient pas mis sur leur feuille de route au début de leur aventure un truc du genre « Ah bah tiens, pourquoi on ne se foutrait pas le doute en perdant un petit match sur la tournée de novembre histoire de se foutre le doute à un moment donné ?» Alors qu'ils ont trouvé une vitesse de croisière sur notre cher paquebot 15 de France et nous font vivre des moments extraordinaires, pourquoi ne pas s'auto-saborder à grands coups de hache dans la coque de notre cher bateau 15 de France en nous foutant dans l'incertitude avec une défaite plutôt que de croire en un destin ensoleillé à travers une entreprise qui fleure bon la réussite et qui gagne? Il y a une méthode, une façon de procéder, une montée en puissance, une vision, il y a un plan d'action. Peu de choses sont laissées au hasard. Tout est analysé, si ce n'est la manière dont va rebondir le ballon. Mais même lui, on lui a foutu une puce au cul maintenant pour savoir combien de kilomètres il parcourt et à quelle vitesse. Sans déconner, mieux vaut construire une équipe dans la victoire que dans la défaite encourageante. J'entends déjà le fameux « mieux vaut prévenir que guérir » ou encore « par le passé, si nous avions… » Stop. Dans le passé, nous n'avions pas cette génération et tous les ingrédients qui permettent de conquérir le Saint Graal. Nous n'avions pas non plus ce record de victoire. On peut tout interpréter, revoir l'histoire à grands coups de « oui, mais si, stop, oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si, ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle ». Et bref, faisons confiance en leur faisant confiance, car même s'il y a des fêtes, les joueurs sauront la surmonter pour atteindre leur sommet et nous ouvrir le champ des possibles. Et pour conclure, mieux vaut être prêt trop tôt que trop tard. À bon entendeur et au Lakers.
Allez, deuxième partie aujourd'hui dans Poulain Raffut. Nous avons la chance d'accueillir Marjorie Mayence, une des joueuses médaillées de bronze lors de la dernière Coupe du Monde de rugby féminin qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande. Et ça, tu y tenais particulièrement, hein, Raph.
Bah oui, Arnaud, je suis ravi et à la fois triste, ravi d'avoir une de ces joueuses qui nous ont poussé à nous lever tôt le matin. On y a cru jusqu'en demi-finale contre les All Blacks. C'est pas passé loin. C'est passé un petit coup de pied, on va dire. Moi, j'étais ravi de voir aussi toute cette ce soutien qu'il y a eu auprès de la buteuse. Et puis triste aussi de voir que Marjorie a annoncé la fin de sa carrière internationale. Donc salut Marjorie, j'espère que ça va. Et là, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est de te poser la question pourquoi t'arrêtes? après cette troisième place, pourquoi tu arrêtes? 32 ans, tu as encore tu as encore de la ressource. Pourquoi tu arrêtes sur le plan international?
Bonjour Arnaud, bonjour Raph. Ouais, effectivement, j'arrête après cette Coupe du Monde, mais c'était un arrêt prévu. Je comptais arrêter de base avant les JO de Tokyo qui ont été repoussés. Et après, j'ai arrêté. La Coupe du Monde à 15 a également été reportée. Donc, je devais déjà arrêter il y a un an. Donc là, ça y est, je vais pas forcer. J'avais prévu mon arrêt de carrière ici et c'est très bien comme ça.
Alors, arrêt de carrière international, quel est l'avenir de Marjorie Maillan? Alors, est-ce que tu as anticipé? On aime bien parler aussi ici de reconversion professionnelle, sachant que tu étais l'une des premières justement à être vraiment professionnelle sur le plan au rugby. Donc, quelle est la reconversion quelle est ta reconversion? On sait que tu es proche de Proval, le syndicat des joueuses et des joueurs de rugby.
Ouais, alors déjà, niveau rugby, j'ai pas la réponse moi-même. Je sais pas si je vais reprendre en club ou pas. J'étais partie plutôt sur Nantes, mais je me laisse quand même une petite porte de sortie si vraiment ça me manque trop dans quelques semaines. Et sinon, ouais, effectivement, je travaille à Proval depuis l'année dernière en tant que juriste. Donc, ils m'ont embauché malgré mon contrat à la Fédé. Donc, ils m'ont fait un contrat à 25% pour… voilà, en gros, je mettais un pied à l'étrier dès la saison dernière. Et là, cette année, j'enchaîne avec mon Master 2 en droit et économie du sport. Et la sorte d'alternance avec Proval. Et l'entraînement aussi que je reprendrai, peut-être pas cette saison, mais celle d'après.
Voilà, on a un scoop, on sait que Marjorie ouais, Variance ne va pas bon. Arrêter vu comment
non,
elle le dit.
Non, l'entraînement, quand moi j'entraîne.
Ah d'accord, ok. Ouais, ouais. Bon, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Marjorie. Mayence, Fafon, Poulain, Rafut, c'est maintenant.
Oui, les filles, vous nous avez fait rêver, espérer, on y a cru jusqu'au coup de sifflet final en cette victoire face au Black Fern. Et puis, vous avez fait front derrière votre buteuse comme une seule femme au coup de sifflet final. Un point, bordel. Vous finissez troisième et puis c'est magnifique parce que ce groupe devenu équipe au fil des mois de préparation sentait bon l'amitié et un bon mix entre l'expérience des anciennes et la folie de la jeunesse. En parlant d'anciennes, voilà, dans le rugby pro, il y a des légendes. Je me permettrai d'en comparer deux, Marjorie Maillan et Thierry Dussautoir. Oui, Marjorie, à 32 ans, tu es devenue au fil des années et des sélections une légende de ton sport, car pour beaucoup de jeunes joueuses en herbe, tu es une référence à ton poste. D'ailleurs, il y a The Black Destroyer et The Blonde Destroyeuse. C'est ton surnom, 50 sélections avec le 15 de France. Et plus du triple à 13. Deux grands chelems, 4 Coupes du Monde, dont une à 7, des JO en 2007, toujours plus. Élue meilleure joueuse internationale en 2021. 2021, on est en 2022, tu vas arrêter, Marjorie. C'est pas possible. C'est avant tout une femme accomplie qui vient de raccrocher ses crampons internationaux pour se consacré, peut-être, on va le voir d'ici à la fin de l'émission, à son club, Blagnac Rugby Féminin. Tu as vu évoluer ton sport et le statut de la femme au beau milieu d'un milieu de bonhommes et tu fais partie de cette génération qui a révolutionné le rugby féminin. Je suis ravi de te recevoir, Marjorie. J'aimerais qu'on vienne, Marjorie, sur cette Coupe du Monde, troisième place, on l'a dit. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça fait de vivre un tel événement en Nouvelle-Zélande, la Mecque du rugby? On dit que pour les joueurs et les joueuses de foot, aller jouer au Brésil, c'est quelque chose de très spécial. C'est le must. Raconte-nous un peu tes émotions, est-ce que vous avez vécu cette montée en puissance jusqu'à cet événement de la Coupe du Monde là-bas?
Bon, déjà, merci pour cette petite présentation très
The Blonde Destroyer, ça va devenir mythique, je crois.
Destroyeuse, attends, mais j'ai mis.
Destroyeuse, pardon.
Ah ben, oui. Ça sonne bien, je trouve.
Et ça a été quelque chose de fort. C'est vrai qu'il y avait une ambiance assez particulière dans les stades. J'avais encore jamais joué contre la Nouvelle-Zélande à 15. Et voilà, vivre le haka, vivre le jour de finale avec un stade à plus de 40 000 personnes, ça a été quelque chose de fort. Et en fait, je suis surtout très heureuse de voir que le rugby joué par les femmes prend une telle ampleur et qu'on est vraiment sur une très belle dynamique. Puis c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, l'ambiance, l'accueil a été superbe. Dès qu'on était, je me rappelle, on marchait dans la rue, il y avait toujours les gens qui nous saluaient, qui discutaient. C'était, voilà, on sentait vraiment beaucoup de bienveillance.
Concernant ta carrière internationale, tu l'avais annoncé, tu as arrêté le rugby à 7 après les JO, justement, de Rio. Est-ce que c'était un objectif de terminer ta carrière internationale en Nouvelle-Zélande, sachant, et tu nous le disais en off tout à l'heure, que voilà, il y a eu le confinement, il y a eu plein d'événements qui se sont passés depuis, mais est-ce que cet objectif de finir en Nouvelle-Zélande, c'était un objectif à long terme ?
Oui, moi j'avais envie de faire les JO de 2020 à Tokyo, l'année d'après de postuler pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Bon, les choses avec le Covid se sont mal enchaînées, tout a été reporté, mais c'était oui, c'était mon dernier objectif, participer à une dernière Coupe du Monde à 15 en Nouvelle-Zélande.
Alors, tout n'a pas été rose dans le mondial. Voilà, troisième place méritée. On a parlé de tension avec le sélectionneur Thomas Darragh. Tu me vois arriver. Tu confirmes, c'est difficile. Est-ce que c'est subjectif? Est-ce que c'est. On va parler justement un petit peu de Jessie Trémoulière, la meilleure joueuse du monde qui l'a été avant toi en 2018, qui a pris la parole dans les médias justement sur la manière dont elle avait été coachée. Est-ce que c'était subjectif ou est-ce que c'était une ambiance un peu globale, difficile comme question, je sais, mais c'est. Quel est ton point de
Non.
vue?
Non, ça a été effectivement une année très, très particulière. De toute façon, ça s'est quand même ressenti sur les résultats et sur le jeu qu'on produisait, hein. Le 6 Nations a été pas bon du tout en termes de contenu. La préparation, notamment avec les deux matchs contre l'Italie, ont
Dont une
été,
défaite.
dont une défaite, ont été donc les deux très mauvais, même si la victoire sur le premier match voilà, cache un peu la misère. Mais ouais, ça a été une année particulière avec une ambiance très spéciale. Et Jessie a été très courageuse de parler de ça en première dans les journaux. Mais oui, il y a eu de fortes tensions avec le sélectionneur notamment. Et on a eu du mal à se libérer, on a eu du mal à se lâcher sur les matchs, même sur les entraînements. On a été très frustrés. Ça a été, je crois, une année de frustration. Enfin, voilà, là, je parle vraiment de manière très personnelle. Ça a été une année très difficile. Et je suis hyper contente parce qu'on a réussi à se remobiliser. Voilà, on s'est un peu. Voilà, on a décidé de se reprendre en main et de vivre notre Coupe du Monde parce que c'était important pour nous. Et de toute manière, on voyait bien que les résultats ne suivaient pas. Donc, on a réussi à remonter la pente et à montrer le rugby qu'on savait jouer malgré tout.
Marjorie, quels sont les griefs réels aujourd'hui envers le sélectionneur? Est-ce que c'était un problème relationnel? Est-ce que c'était une remise en cause du projet de jeu? Est-ce que tout était finalement intimement lié? Est-ce que vous avez un sentiment de ne pas être écouté? Est-ce que ça manquait d'échange? Quels étaient véritablement les griefs?
Oui, tout était un peu lié, mais il y avait pas mal de problèmes, notamment dans le relationnel, avec un manque d'écoute réel, une incompréhension également en termes de projet de jeu, hein. Clairement, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça parce qu'on ne comprenait pas certaines choses et c'était difficile à 3 mois d'une Coupe du Monde de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'arrive pas à jouer. Enfin, comment c'est possible, quoi, avec les joueuses qu'on a sur le terrain? Et du coup, ouais, le manque de communication a été très difficile. Voilà, le manque, Jessie a parlé de manque d'honnêteté. Ouais, il y a eu une ambiance très pesante durant tout au long de l'année et du coup, durant aussi la Coupe du Monde, quoi. Heureusement, voilà, comme Jessie, enfin, comme tu l'as dit, la Fédé nous a écoutés pour le coup. On avait eu un
Il y a eu un
jeu.
médiateur, hein.
Voilà, un médiateur qui est venu sur place, hein, c'est ça, Christophe Reit.
Voilà, Christophe devait venir dans tous les cas. Il y a Serge, il y a Bernard qui sont venus aussi, qui devaient de toute manière venir pour la Coupe du Monde. Mais Christophe est venu et ça a fait du bien d'avoir de l'écoute. La Fédé, pour le coup, a été vraiment à notre écoute. Et je remercie vraiment l'institution parce qu'elle nous a permis réellement de finir la compétition de manière libérée et de se décharger de quelques problèmes et quelques. Voilà, quelques problèmes durant la compète.
Tu as vu évoluer, je le disais, hein, tu étais précurseuse, on va dire, en fait, dans le rugby professionnel féminin. Tu vois le rugby féminin évoluer depuis de nombreuses années. C'est une étape en plus, le fait de se sentir aussi écouté par la fédération, écouté par Bernard, écouté par les responsables du rugby français aussi, de dire qu'en fait, ça n'allait pas. Et je trouve que c'est. Enfin, et moi, ce que j'aime aussi dans le discours de Jessie Trémoulière et ton discours, à la différence des hommes aussi parfois qui osent pas dire les choses parce que la gamelle est bonne, parce que tout ça. Mais là, ça fait plaisir en fait d'entendre que ouais, en fait les choses n'allaient pas et qu'on a pris le pouvoir sur notre destin. Je trouve ça assez courageux et je sais pas ton point de vue par rapport au fait d'être de plus en plus écouté aussi par la fédération et ça apporte une légitimité en plus aussi au rugby féminin et à sa professionnalisation, je trouve.
Ouais, bien sûr. Là, on voit que depuis quelques années, notre équipe de France est importante et que les résultats comptent, que les résultats comptent beaucoup. Bah, d'ailleurs, la Fédé a changé tout le staff juste après le Six Nations parce qu'ils voulaient gagner. Sauf que bah, nous, en interne, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la bonne manière de faire, quoi. Et ça fait plaisir de voir que, ouais, de voir qu'on est écouté parce qu'il y a eu un réel mal-être, hein. La saison a été vraiment, vraiment difficile. Et le début de la Coupe du Monde a été très difficile. Et d'avoir des interlocuteurs qui nous prennent vraiment au sérieux, c'est agréable et on se sent beaucoup moins délaissé.
Alors justement, Marjorie, on l'a dit, hein, Jessie Trémoulière, qui a été élue, on l'a dit, en 2018, meilleure joueuse du monde, et qu'on avait reçue d'ailleurs à cette occasion dans Poule à Raffut, donc assez émue de son sort, en tout cas du sort qui lui a été réservé durant le mondial. On a vu qu'après la parution de l'interview chez nos confrères de l'équipe, la fédération avait tout de suite réagi, hein, je prends une partie du communiqué, la FFR prend très au sérieux. Donc les propos, elle a publié un communiqué, on l'a dit, et elle a fait savoir qu'il y avait un travail de débriefing et d'analyse qui avait démarré donc au lendemain de la compétition avec l'ensemble des acteurs de la Coupe du Monde. Le communiqué dit précisément: ce travail comprend l'écoute de l'ensemble des joueuses du groupe France ainsi que du staff. Il sera terminé vers le 20 décembre. Ça veut dire, Marjorie, que tu vas être entendue au cours de ce travail. C'est pas une enquête, hein, c'est de ce travail d'analyse finalement post-Coupe du Monde.
Mais je ne sais pas, parce qu'on en a déjà beaucoup discuté pendant la Coupe du Monde. Donc j'espère que toutes les joueuses seront entendues pour que, oui, pour que les informations viennent de tous les côtés. Si on n'entend que les gens du staff, que les élus, etc., je pense que le travail ne sera pas fait de
Profondeur.
manière, voilà, de manière réelle. Donc j'espère que tout le monde sera entendu et que voilà, des solutions vont pouvoir être trouvées pour que l'équipe de France puisse enfin gagner.
Le fait d'être néo-retraité, ça te permet aujourd'hui d'être finalement totalement libre dans l'analyse et dans ta prise de parole?
Franchement, je
T'as
pense
jamais
que
eu
c'est
le ballon
surtout mon
dans ta poche, hein, après,
expérience.
ouais, de par l'expérience.
Ouais, c'est plus, je pense, de par mon expérience, parce que, et puis, oui, la fin de carrière que j'ai vécue là, qui a été quand même très difficile. Voilà, je pense que j'ai pris beaucoup en maturité, que j'ai appris beaucoup en termes de relations humaines, et j'ai appris beaucoup sur moi. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et ouais, je pense que ça me permet de prendre la parole plus facilement, en tout cas de ne pas sentir de pression de part et d'autre pour ce genre de choses.
Par rapport à cette Coupe du Monde, est-ce que tu n'as pas le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment qu'on a de loin, hein, l'ayant vu de France, que c'est un petit peu le même genre de scénario qui s'est passé avec Tizi Dussautoir en 2011 et la Coupe du Monde, alors perdue d'un point. Le scénario est à peu près le même, sauf que en 1999, en 2011, et comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous avez pris le pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes passé au-dessus du côté justement hiérarchique, du sélectionneur, du manager. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Et si oui, à quel moment il y a eu ce déclic de dire: ok, bon, ça va, prenons le bon pouvoir justement sur ce que l'on a à faire, notre aventure humaine, ça nous appartient, c'est nous les joueurs sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu ce genre de discours? Et j'imagine que si oui, il y a dû l'avoir de la part des leaders du groupe. Vas-y, balance. Qui?
Ouais, non, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, je pense que l'aventure est, oui, peut-être un petit peu comparable à celle des Bleus et de Thierry Dussautoir en 2011. Mais ouais, je crois qu'on a eu le déclic bah, après le match de l'Afrique du Sud, quand bah, on avait enchaîné bah, le Six Nations, on avait enchaîné les deux matchs contre l'Italie, terminé par une défaite, et un premier match contre l'Afrique du Sud. Ben plutôt très moyennasse. Effectivement, on gagne, mais c'était un premier match de compétition. On avait toutes énormément d'envie, mais on sentait qu'il manquait quelque chose. Le débriefing a été musclé. Et là, on s'est dit, bon, allez, là, c'est bon maintenant, les filles, stop, on arrête. On peut pas, parce que là, il y avait le match des Anglaises la semaine d'après. On s'est dit, si on continue comme ça, on en prend 40 dans une semaine par les Anglaises. Donc prenons les choses en main, jouons le rugby qu'on a envie de jouer. Les choses qu'on n'a plus envie, on dit stop. Les choses qui nous dérangent, c'est non. Ou sinon, voilà, on ne les fera pas de toute manière. Donc ça a été un petit peu le déclic, la goutte d'eau. Les 10 premiers jours avaient été compliqués déjà en Nouvelle-Zélande. Et là, ouais, le match et le débriefing du match ont été un petit peu la goutte d'eau. Donc, c'est là qu'on s'est vraiment ressaisi, qu'on s'est recentré sur nous et que, ouais, qu'on s'est retrouvé, qu'on s'est ressoudé et qu'on a réussi à faire une compète qui, en tout cas, nous a satisfaites sur le plan de la remobilisation, quoi.
Oui, sur le plan de la remobilisation. Mais est-ce qu'il y a aussi des regrets que nous, on peut vivre aussi en tant que supporters sur ce match face aux Black Ferns? On le rappelle, à un point, ça s'est joué à un point. Tu le dis, sur le, j'irais, la mobilisation du groupe, on a senti que c'était une réussite. Mais est-ce qu'on a quand même le sentiment, sur la demi-finale, que les Bleus ne sont pas passés à côté de quelque chose d'énorme, de très très grand? Et je referai encore la comparaison avec 2011. Ça se joue certes à un point. On ne parlera pas du coup de pied parce que c'est un fait de jeu, justement. Mais est-ce que c'est ton sentiment, justement, de dire que ouais, vous êtes passé à côté de quelque chose qui aurait pu être un exploit, une fois de plus, comme en 2011, où.
Ouais.
Enfin,
En fait, j'ai
c'est.
deux sentiments un peu ambivalents parce que d'un côté, je me dis effectivement, on est passé très proche de l'exploit, mais on est passé très proche de l'exploit, mais je pense qu'on a quand même perdu. En fait, je suis frustrée parce qu'on a perdu un an. On a perdu un an, on a perdu du temps de préparation où où beaucoup de filles ont été ben, n'ont pas été à leur niveau pas forcément bien mentalement. Et je crois que c'est là qu'on a perdu du temps. C'est plus en amont. Là, ça se joue sur un fait de jeu. Ça se joue sur pas grand-chose. On a donné tout ce qu'on avait dans l'engagement. Mais je pense que le temps, on l'a perdu avant. Puis sincèrement, après le match de l'Italie, on aurait payé pour être en demi-finale et perdre d'un point contre les Blacks. Durant la saison,
Au
on se
vu du
disait, mais
parcours,
là,
oui.
on voyait, enfin, on se disait, mais là, si on passe l'écart, c'est bien déjà. Donc, j'ai voilà une frustration parce qu'on a perdu beaucoup de temps et je pense qu'avec l'équipe qu'on avait, on aurait pu être championne du monde, vraiment. Mais je suis quand même contente parce qu'il y a 3 mois, il y a 4 mois, on m'aurait dit, Margot, tu seras en demi-finale, tu perdras d'un point contre les Black Ferns et tu prendras le bonus défensif contre les Anglaises. Sincèrement, j'aurais pas cru.
Marjorie, sans vouloir me faire l'avocat de la défense, on dit que les équipes féminines sont peut-être un peu plus difficiles à manager que les équipes masculines, que la sensibilité y est un peu plus exacerbée. Est-ce que c'est un cliché totalement sexiste? Et dans ces cas-là, pardon, je l'assume. Ou est-ce qu'il y a une part de vrai quand même?
Je pense pas du tout que les femmes soient plus difficiles à manager, sincèrement. Je pense qu'on est très docile, qu'on a juste besoin de comprendre ce qu'on fait, qu'on a juste besoin d'être bien dans le groupe. Bah, Wayne Smith, l'entraîneur de la nouvelle des Black Ferns, a très justement dit les gars, ils ont besoin de bien jouer au rugby pour être bien. Les filles, elles ont besoin d'être bien pour bien jouer au rugby. Et effectivement, on est passionné de rugby, on bosse beaucoup, enfin, sincèrement, Enfin, je trouve qu'on est dans un cadre précis. On nous dit de pas sortir, on sort pas. On a une hygiène de vie très bonne. On est bienveillante. On a envie que tout se passe bien, que ce soit avec le staff, entre nous. Sincèrement, je pense pas qu'on soit très difficile à manager. Après, il nous faut de l'honnêteté. Il nous faut de la confiance. On peut pas marcher, on peut pas aller à la guerre pour quelqu'un avec qui il n'y a pas de relation de confiance qui s'est enclenchée. Donc, je ne pense pas qu'on soit difficile à manager. Je pense que la manière est peut-être différente, effectivement. Mais je crois que ce n'est pas quelque chose de difficile. En tout cas, je ne pense pas qu'on soit difficile. On a du caractère, certes, mais on a envie de tout faire pour que l'équipe gagne. On a envie de tout faire pour que les gens qui nous entourent soient bien. Donc, à partir de là, je crois que le principe, n'est pas hyper difficile
Vous êtes
à
juste
comprendre.
différente et très bien. Marjorie, moi, quand je t'entends parler là, et je rajouterai une petite question à ce qu'on avait mis en place avec Arnaud, c'est que vu ton expérience, vu ta lucidité, ta maturité aujourd'hui à 32 ans, tu connais le rugby professionnel féminin qui est en pleine révolution, mais ça depuis quelques années maintenant. Quand tu y reviens, parce que là, justement, s'il y a des places à prendre, justement, alors attention, toute proportion gardée, on va laisser justement toutes ces, voilà, que les langues se délient, mais après, il y a la fameuse appétence, tu vois, ce mot, tu vois, qui sort de nulle part, appétence, il y a quand même, t'as quand même, bordel, de l'expérience et de ce que tu racontes, quand même, mais vas-y, quoi, vas-y, fonce. Et je pense que justement, la nouvelle génération a besoin d'avoir des figures tutélaires, d'avoir besoin des figures comme toi. Je parlais de légende et je pèse mes mots, hein, vraiment. Tu marques le rugby féminin. Mais tu vas le marquer de l'autre côté. Alors, il y a peut-être le deuil à faire que tu n'as pas encore fait parce que j'ai cru comprendre que tu n'arrêterais pas du jour au lendemain. Ça va continuer. Mais derrière, à court, moyen ou long terme, à mon avis, à moyen terme, voire court terme, on va te revoir avec le coq sur le cœur.
Je sais pas, je sais pas. Après, c'est sûr que je serai jamais très loin du rugby. J'entraîne, enfin, j'ai entraîné les jeunes au club. J'ai, voilà, j'ai mon diplôme d'entraîneur et c'est, je pense que c'est un domaine dans lequel je reviendrai. Ça me tient le, voilà, mon sport me tient à cœur. Ça fait 22 ans que j'en fais. Et oui, j'ai envie que l'évolution du rugby pour les femmes soit bonne, qu'elle soit longue, qu'elle soit bonne, que ça ne retombe pas comme un soufflet. Je suis très contente de voir que depuis 10 ans, l'évolution est constante. Mais voilà, je ne sais pas sincèrement sous quelle forme ça prendra. Mais là, je travaille déjà à Proval. On travaille beaucoup sur le rugby féminin également. Je suis sur toutes les réunions avec la fédération, avec les instances du rugby. Moi, mon domaine, pour l'instant, c'est le droit du sport. Mais oui, je serai jamais très loin. Je ne serai plus sur le terrain, mais j'ai envie de participer quand même un peu à cette évolution, en tout cas de voir quelle direction ça prend et que la direction soit bonne.
Avec Jessie Tréboulière et puis les anciennes, je vous ai formé un truc chambé, je le sais. C'est comme ça.
On ira déjà boire des bières dans les tribunes pour commencer.
Je viendrai trinquer avec vous en vous disant, vous voyez les filles, j'avais raison. Et j'ai rarement raison sur le rugby, mais là, sur le coup, je sais que ça va se faire. Allez.
Non, je voudrais revenir, Marjorie, parce que tu parles justement de ta position de juriste, on parle de droit du sport. Là, on a appris dernièrement qu'il y avait une action en justice qui était menée par d'anciens joueurs de rugby professionnel, hein, Karl Emans, entre autres, qui attaquent donc la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby parce qu'ils s'estiment ne pas avoir été protégés par rapport à toutes les commotions qu'ils ont pu subir durant leur carrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui ? Est-ce que tu as le sentiment que on a quand même, de l'extérieur, le sentiment qu'il y a eu des avancées hein, avec tout ce protocole commotion, l'impression que la prise en charge est bien meilleure. Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire ? Est-ce que, par exemple, le rugby féminin, de ce point de vue-là, est également aussi bien protégé ?
Oui, je pense que, d'une part, je pense que c'est un versant très difficile à gérer parce que les symptômes des commotions sont très différents selon les personnes. Que la commotion elle-même est très difficile à appréhender. On peut prendre un coup à la tête, être un peu sonné, pas forcément faire de commotion. Et en fait, c'est difficile pour des gens déjà qui ne sont pas du médical de l'envisager. Donc, dans les clubs, surtout avec quelques entraîneurs, managers qui sont encore un peu de la vieille école, c'est difficile pour un manager qui n'est pas médecin de dire bon, ça va, il a pris un coup à la tête, mais bon, il va s'accrocher, il nous parle bien. Les symptômes sont difficiles à comprendre, mais je crois qu'on est vraiment dans une grosse progression dans ce domaine-là. Oui, les joueurs alertent, et c'est normal, parce que beaucoup ont été très mal pris en charge. Ça dépend aussi des gens qui gèrent ça dans les clubs, mais de manière générale, les protocoles commotion sont beaucoup mieux gérés, les protocoles de reprise sont beaucoup mieux gérés. Il faut aussi, qu'on soit vigilant entre joueurs. Quand sur le terrain, on a vu un copain et une copine qui prend une commotion, parfois le médecin, le kiné, l'entraîneur ne peut pas le voir. Et c'est aussi à nous de le signaler parce que nous, en tant que joueurs, on a toujours tendance à dire « Non, c'est bon, j'ai juste pris un coup et je repars. » Mais il faut être très vigilant là-dessus. Et oui, il y a quand même beaucoup de progrès. Nous, par exemple, à la Coupe du Monde, là, on a testé les protège-dents connectés.
Vas-y, Dini, tu peux nous en dire plus ?
On a un protège-dents avec une puce à l'intérieur. On a fait toute une petite batterie de tests là, avec un scanner. On prend un choc à l'entraînement, le protège-dents le détecte. Il y a une application, par exemple, sur un entraînement de 30 minutes, Marjo, 5 impacts qui sont notés sur l'application avec le nombre de jets et l'endroit où le coup a été pris. Donc, c'est encore à titre expérimental. Effectivement, on a encore très peu de recul, on n'a encore pas de recul d'ailleurs pour savoir, par exemple, à partir de combien de jets la vitesse est synonyme de commotion. Mais en tout cas, pour le futur, je pense que ça sera réellement un outil qui servira peut-être à protéger des gens qui ont pris trop d'impact en une semaine, on les met au repos 3-4 jours, pour éviter, parce que je pense que ce qui est dangereux, ce n'est pas forcément les matchs. Je pense que ce qui est dangereux, c'est de prendre des coups à répétition. On prend un petit coup d'entraînement, on continue, on en reprend le lendemain et on prend un gros coup le week-end. Et là, c'est chaos total. Et je pense que le cerveau, mais comme tout muscle, c'est comme quand on prend une béquille à la cuisse. On prend un petit coup à l'entraînement. Bon, ça va, j'ai pris un petit coup, machin. Je reprends un gros coup en match dessus. Ma cuisse, elle explose. Sauf qu'à la cuisse, on le sent réellement, on le sent sur le coup, on ne peut plus courir. Et le problème de la tête, c'est que ben, le cerveau, on ne peut pas encore réellement voir ce qui s'y passe. Et je pense que les gros dangers sont là, mais en tout cas les progrès technologiques, les instances, les arbitres, les entraîneurs font, et les médecins font de réels progrès là-dessus. On est vraiment dans le rôle de protection du joueur. Il y a eu des loupés, certes, mais on progresse vraiment là-dessus.
Moi, c'est un sujet qui est délicat. On en avait parlé ici avec le docteur Sherman qu'on avait invité l'année dernière. On continuera à en parler, bien entendu. Et c'est vrai que les solutions, étant un sport de contact, un sport direct et de contact, c'est délicat justement de trouver des solutions. On a vu que les zones de plaquage avaient évolué. Donc, c'est aussi dans les écoles de rugby de faire évoluer l'apprentissage du plaquage. Mais on ne pourra jamais aller sur un rugby touché. On avait vu aux États-Unis, on en parlait en off tout à l'heure, justement, ce film génial avec Will Smith, Seul contre tous, où les footballeurs américains se sont aussi levés contre la NFL. Ils ont eu gain de cause, ils ont pris près d'un milliard, mais derrière ce milliard, il y a toute la symbolique de prendre en considération aussi tout ce qui s'est passé pendant des années et qu'on a un peu, non pas occulté, mais c'est aussi en prenant des claques qu'on avance, donc en espérant, et leur cri en tout cas est entendu, et que toutes les instances en fait se mobilisent pour éviter le plus possible ces problématiques.
Et les entraîneurs aussi, hein.
Bien sûr.
Alors, tu parlais de la zone de plaquage, je pense que la technique de plaquage est un facteur mais vraiment très important de la commotion. Hein. Souvent, on a toujours une épaule plus faible que l'autre. On a tendance à plaquer de la mauvaise. Et du coup, la tête se retrouve du mauvais côté et c'est là où on fait des commotions. Mmh. Et je le vois sur mes plaquages, par exemple, sur pas mal de jeunes notamment. Je pense que c'est réellement important que dans les écoles de rugby, on apprenne tout de suite à plaquer bien avec la bonne technique et à plaquer de manière sécuritaire. Je pense que déjà, rien qu'avec ça, on peut enlever sincèrement 30 ou 50% des commotions.
Ah justement, Marjorie, vu que tu as été une des meilleures plaqueuses de cette Coupe du Monde, on ne l'a pas découvert sur cette Coupe du Monde, mais est-ce que tu auras des souvenirs dans 10, 15, 20 ans et quels seront ces souvenirs finalement quand tu te retourneras sur cette belle aventure?
Ouais, j'aurai plein de souvenirs. C'est vrai que là, je suis hyper contente parce que bon, là, j'arrive en fin de carrière, 32 ans. Je me suis dit passer 2 mois en Nouvelle-Zélande avec les mêmes gens, ça peut être compliqué. Et vraiment, je suis contente parce que j'ai appris à découvrir des filles que je connaissais déjà bien, mais avec qui je n'étais pas forcément encore amie. Et là, j'ai réellement découvert des amis. J'ai découvert des filles qui sont un peu révélées, qui ont révélé un peu leur caractère. Et je trouve qu'on s'est vraiment soudés dans la douleur, parce que ça a été quand même difficile. Et je me rappellerai de ça, je me rappellerai de cette force collective qu'on a eue, de la complémentarité qu'on a eue durant les réunions, qu'on a eue durant certaines confrontations, en se disant « mais non, on ne peut pas se laisser faire ». Et dès qu'il y avait quelqu'un en difficulté, tu avais une fille qui arrivait, qui la relevait et qui l'aidait dans sa prise de parole. Et je crois que c'est ça qui nous a fait aussi basculer un petit peu sur le terrain. On s'est retrouvés, on s'est vraiment soudés. Et collectivement, c'est ce que je retiendrai. Et je retiendrai surtout la manière dont j'ai réussi à me relever. Parce que bon, je n'ai pas joué de la saison. J'ai fait un burn-out en novembre. En le Six Nations, j'étais en forme et je ne joue pas une minute du Six Nations. Et j'arrive à revenir sur cette Coupe du Monde et à faire quasiment tous les matchs et en faisant des bonnes perfs, je suis très contente. Donc je retiendrai ça. Ce dernier match contre les Anglaises, voilà, c'est toujours des matchs que j'affectionne beaucoup. Et c'est vrai que j'avais perdu un peu confiance. Je me disais, ouais, mais ça se trouve, il a raison, je suis devenue nulle. Et je suis contente d'avoir remonté la tête et que les copines m'aient aidé vraiment à passer cet obstacle et à me défouler sur le terrain et du coup un peu en dehors aussi.
Génial. Tu sais, Marjorie, en général, on a toujours le mot de la fin. Et après, on débriefe, tu vois, en off. Normalement, l'invité part. Donc moi, je vais débriefer maintenant, tout de suite, parce que je pense que, au-delà de ce que je vais te dire, c'est tout le rugby féminin qui est concerné. En fait, tu fais du bien. J'aurais même envie de te reposer la question. Mais on partira encore sur une demi-heure sur le burn-out, parce que c'est quelque chose de mettre en mots, justement, des moments compliqués dans la vie d'un sportif. Je suis assez fan de ça et je prends ce problème à bras-le-corps. Je sais que Proval aussi. Mais au-delà de ça, ton discours, ta sincérité, ce que tu as dégagé en tant que joueuse est à l'image de ce que tu viens de nous offrir pendant une demi-heure. Donc, je suis très touché de te connaître autrement que joueuse. Je ne suis pas surpris. J'étais ravi de ce moment parce que Parce que ça fait du bien au rugby féminin, parce que ça fait du bien au rugby et ça fait du bien aussi aux instances et aussi à ceux qui nous coachent ou qui nous ont coachés. À un moment, de pouvoir aussi de se remettre en question et de se dire, ben ouais, en fait, s'il y en a une qui l'ouvre de manière subjective, je ne vais peut-être pas me remettre en question, mais collectivement, quand tout le monde commence à l'ouvrir, va peut-être falloir que je me regarde en face. Et c'est à toute la révolution aussi du management patriarcal masculin qu'on a connu, nous aussi, à ma génération. Il évolue. C'est pour ça que tu as toute ta place dans les années, peut-être les mois, voire les jours ou les semaines à venir dans le rugby. Tu fais du bien et j'étais ravi de te recevoir. C'est très sincère. Je suis très touché. On avait eu Lénaïque Corson, Jessie Trémoulière, Safie Ndiaye. Et voilà, les anciennes sont là. Elles vont prendre le pouvoir, messieurs.
Les vieilles.
Attention. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, bon, merci beaucoup. Vraiment.
Merci à vous vraiment de m'avoir invité. Ce fut un plaisir.
Merci Marjorie, et nous on va enchaîner tout de suite évidemment avec la troisième partie de Poulain Raffut. Allez Raph, dans cette troisième partie, il sera encore de questions de rugby féminin. Tu tenais à saluer hein, le prix reçu par Wayne Smith, meilleur entraîneur de l'année 2022, décerné au World Rugby Awards à Monaco le week-end dernier. Wayne Smith, hein, champion du monde avec les All Blacks en 2011, en 2015 hein, dans les staffs de Graham Henry et de Stevenson, et cette année sacré champion du monde à la tête des Black Ferns. World Rugby consacre ici un sélectionneur d'une équipe féminine, plutôt par exemple que Fabien Galthié, la tête d'une sélection qui n'a pas perdu un match. Et visiblement, ça t'a plutôt réjoui au nom de l'égalité des sexes.
Oui, au nom de l'égalité des sectes, et puis aussi en termes d'expérience. On l'a dit, je l'ai dit un petit peu dans ma ruade au début, que voilà, Fabien Galthié avait eu un parcours un peu délicat en tant que manager de différentes équipes, Stade Français, Montpellier et Toulon. Force est de constater qu'aujourd'hui, avec tout son staff, voilà, il fait des miracles, et tant mieux pour lui, et tant mieux pour les joueurs, et tant mieux pour l'équipe de France. Mais voilà, face à lui, on a quand même voilà, ce Wayne Smith qui est champion du monde en 2011, champion du monde en 2015 et puis aujourd'hui champion du monde avec les féminines. Donc en termes d'expérience, de réussite, à la fois, ben voilà, tu ne coaches pas les hommes comme tu coaches les femmes. Tu as posé cette question un peu délicate, Arnaud, face à Marjorie qui a très bien répondu. Le mec sait s'adapter et je trouve ça assez chouette aussi de... derrière la récompense du sélectionneur, de récompenser aussi un membre du staff des All Blacks aussi de 2011 et 2015. Ce sont des mecs qui sont dans l'ombre aussi. On voit toujours le sélectionneur, mais c'est tous les mecs qui sont dans l'ombre derrière. C'est les fameux staff, les 20 personnes dont je parlais dans la ruade, ce staff qui fait un travail de l'ombre, qui fait vulgairement un putain de travail. Ben aujourd'hui, il est récompensé et j'en suis ravi pour lui. Et puis, c'est de récompenser aussi les Néo-Zélandais qui sont toujours un petit peu précurseurs et un petit peu devant, même si l'équipe de France aujourd'hui masculine et devant. Donc voilà, je pense que c'est un prix complètement mérité.
Allez Raph, on va conclure. Un coup de cœur hein, pour cette opération solidaire organisée par la Fédération française des supporters de rugby en faveur d'Emmaüs. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est une collecte solidaire qui sera réalisée le 26 novembre prochain. Cette initiative imaginée par la Fédération française des supporters de rugby est devenue au fil des semaines une collecte nationale dans la majorité des clubs de top 14 et de Pro D2, ainsi que des divisions nationales et fédérales. Donc des comités d'entreprise et d'autres collectivités ont rejoint cette action caritative. Donc tous les objets récoltés seront ensuite redistribués à Emmaüs Défi, chantier d'insertion dont la mission est d'aider par le travail de collecte, tri et revente des produits de seconde main, des personnes en situation de grande exclusion à retrouver une place digne dans la société. Donc voilà, c'est un petit hommage à rendre aux supporters qui cassent la tirelire pour être au soutien de leurs joueurs chaque week-end. Beaucoup aussi sont en déplacement et ben sur le terrain et surtout en dehors, ils sont tout aussi généreux. Donc c'était une manière de leur rendre hommage. Le 26 novembre, cette collecte aura lieu dans la plupart des clubs de top 14. Voilà.
Et pour ceux qui seront à Paris, ce sera sur le parvis du stade Jean-Bouin. Donc tous à vos placards, à vos armoires, c'est le moment de faire du tri et évidemment de faire un joli geste juste avant les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Raph, merci beaucoup. Poulain Raffut, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec la banane.
Merci Arnaud. Merci aussi à Seb qui est à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et ravi de cette émission avec Marjorie.